j'aimerais, pour ceux qui étaient là mercredi, à la réunion de prière, on va faire la suite du petit partage que je vous avais annoncé. Comme ça, ça donnera envie à ceux qui ne viennent pas le mercredi de venir, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on avait parlé du fait que, eh ben, quand Jésus parle, il se passe des choses, et il y a des choses qui changent. Ce matin, je vous ai entendu, vous avez bien chanté, j'ai chaud là, je sens que ça chauffe, parce que vous avez rendu grâce à Dieu pour le fait qu'on ait su réparer le chauffage. Donc, je vois que certains étaient heureux, même pendant... Paul, il m'a envoyé un message cette semaine. « Alexis, est-ce qu'il y a du chauffage ?» Parce qu'il y en avait marre de répéter dans le froid avec ses gants pour la guitare, c'est compliqué. Mais on est content. Merci en tout cas à vous tous, puisque sans vos offrandes, vos dons, c'est impossible d'entretenir les locaux. Donc, merci à tous. Il y a encore des petites choses à faire, mais on a chaud, on est bien, on est confortable. Donc, merci Seigneur. Alors... souvent, moi j'aime dire que suivre Christ, ça ne m'intéresse pas si c'est uniquement au travers du prisme de la religion, du fonctionnement ou de l'organisation, puisque finalement tout ça c'est assez fade. Comme me disait Gisèle cette semaine, elle dit forcément quand on travaille ensemble, s'il y a une ou deux personnes, eh ben, c'est obligatoire, on doit passer par une organisation humaine, parce qu'il faut se coordonner, il faut pouvoir discuter, il faut pouvoir mettre les choses en place, mais nous... On veut être organisé autour de Jésus-Christ, de sa parole, de ce qu'il nous donne de vivre. Et on veut vivre les choses pleinement. Et moi, j'aime vivre ces choses pleinement parce que si Jésus est vivant, il faut que je vive des choses. Et je crois que notre Église doit vivre des choses, l'Église avec un grand E doit vivre des choses, doit connaître la pensée de Dieu. Et donc, on a souvent eu ce slogan dans les Églises, c'est « Demandez et… » Oh, vous êtes fort. On va relancer les études bibliques ici parce que demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez. Et bien, c'est les paroles de Jésus. Et ces paroles de Jésus, s'il les a dites, c'est pas pour rien. Et souvent, on prend ce verset un peu comme le verset qui dit qu'il faut jeûner plus, il faut prier plus fort, il faut intercéder davantage. Et au plus je vais crier fort, au plus Dieu va m'entendre. Ben, ce n'est pas du tout ce que Jésus entendait par là, et c'est plutôt une montée en puissance. Demander, chercher, frapper. On monte en intensité, on monte en puissance, et même, je dirais, on monte le niveau. Il y a la demande, il y a la recherche, et il y a le fait de frapper. Alors, j'aimerais faire cette analogie avec le fait que ces trois termes vont nous... On va essayer d'associer ça avec le tabernacle. Vous connaissez le tabernacle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le QG de la présence de Dieu du temps de Moïse. Dieu était là, et puis il avait organisé les choses de manière simple. Il y avait les parvis. Le parvis, c'était le lieu d'accès où il y avait les sacrifices. Tout le monde, voilà, le peuple entier pouvait y entrer. Et puis ensuite, vous avez le lieu saint où seuls les prêtres pouvait entrer, ensuite le lieu très saint, où une fois par an, le grand prêtre pouvait aller devant la face de Dieu. Alors le parvis extérieur, c'est sous le soleil. Tu vois, quand je suis allé à la Réunion, je me suis rendu compte qu'ils ne vivaient pas de la même manière que nous. Il fait beau, il y a le soleil est le même, et pourtant il chauffe beaucoup plus fort. Comme je vous avais dit il y a quelques mois, moi j'ai trouvé le moyen de brûler à l'ombre. J'étais à l'ombre, et puis... 2 heures plus tard, j'avais une face cuite et une face blanche. Je ne suis pas un réunionnais, j'ai du sang polonais malheureusement. Et quand un polonais va sous ce soleil-là, je me suis dit, tiens, ce n'est pas le même soleil, ça crame. Et là-bas, ils aiment faire des barbecues. Donc vous voyez, sur les plages, tout est installé pour pouvoir venir avec sa viande. Et puis c'est la fête, on se rejoint avec les amis, on mange ensemble. Barbecue, ambiance barbecue, short, tonnel, tout est prêt pour vraiment passer un bon moment. Eh bien, le parvis, c'était ça, ambiance barbecue. Tout le monde venait là, on aime Dieu, oui, on arrive, ambiance barbecue. Il y a des sacrifices, oui, et puis on se présente devant Dieu avec nos sacrifices, ok, mais Arnaud, il va dire, écoute, t'as pas de la crème solaire, parce que moi, j'ai une peau blanche, ça commence à chauffer, est-ce que tu peux me donner ta crème solaire? Et j'ai remarqué que souvent, le parvis, c'est le niveau 1, c'est la demande. Et nous, les chrétiens, on aime demander à Dieu, c'est assez facile. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi une épouse. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. J'ai besoin d'un peu plus de viande. J'aurais besoin d'une crème qui me protège ma vie. Et vous voyez, on est un peu comme ça. premier niveau de la vie chrétienne. On vient devant Dieu, on le rencontre, on arrive, on est invité à une fête. C'est génial, c'est bien, il y a une ambiance, il y a les amis, il y a la famille, on est dans notre club, on aime tous Jésus, mais on demande. Et on demande tout ce qui nous passe par la tête. Et Dieu bénit. C'est ça qui est fou. Quand on lit Matthieu 7, verset 7, si on peut le lire jusqu'au verset 14, il nous dit bien que finalement, Dieu est un bon papa. Et comme un bon papa, il nous donne des bonnes choses. Matthieu 7, Anna 7, jusqu'à 14. Ne t'endors pas, Anna, reste avec moi. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Ensuite, en effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Donc vous voyez, Dieu est bon et c'est légitime. C'est légitime pour nous, ayant accepté Christ dans notre vie, de demander des choses à Dieu. Je ne vous dis pas que demander n'est pas bon, c'est légitime. Mais le lieu de la demande, le parvis, a un autre objectif pour vous. Comme je vous l'ai dit, il y a l'autel du sacrifice. Et on est dans une montée en puissance. La volonté de Dieu est que tu puisses te retrouver dans sa présence. Et j'ai articulé ce passage en donnant ce thème, l'architecture de la percée. Si on veut avoir une percée dans la prière, il faut comprendre ça. La première chose, c'est lorsque je suis dans le parvis, je demande à Dieu, mais je dépose quelque chose. Ma demande, c'est de dire, Seigneur, ok, il y a ceci, il y a cela, mais j'ai compris que je dois déposer mon autosuffisance sur l'autel. Je dois déposer mon égoïsme sur l'autel. Je dois déposer le moi-je sur l'autel. Tu bénis, c'est bien, mais maintenant, si je veux aller plus loin, si je veux aller dans le lieu saint, eh bien, il faut que je dépose quelque chose. Et pour nous, effectivement, dans notre société, c'est le moi-je, c'est le confort, c'est certaines de nos habitudes, c'est le fait de se dire que de toute manière, on peut y arriver avec ce que l'on sait, avec ce que l'on a, avec nos diplômes, et moi, j'y arriverai par mes propres forces, je réussirai à avoir ma maison par mes propres forces, le titre et ceci et cela, je vais y arriver, avec mes talents, mes forces. Et finalement, le lieu de la demande, il est essentiel de dire, ok, j'ai tout ça, j'ai ces capacités, je suis capable de, mais je reconnais, mon Dieu, que sans toi, je ne peux pas aller plus loin que ce domaine-là. Je ne peux pas aller dans le lieu saint si je n'abandonne pas le fait de croire que je suis mon propre Dieu, que je peux tout réussir par mes propres forces. Et là, tu déposes. Tu dois égorger, malheureusement, ton autosuffisance, tout ce que tu considères être seulement de ton fait. Et c'est difficile parfois. C'est juste ou pas? Moi, c'est difficile. Parfois, je dis, mais je suis capable. Je peux le faire. Je n'ai pas besoin d'aller dans la prière. Je n'ai pas besoin de me présenter devant Dieu. Donc, le parvis, premièrement, c'est demander, c'est du domaine de la parole. Il faut que je nomme les choses. Il faut que j'expose les choses à Dieu. Et quand j'expose les choses à Dieu dans ce parvis-là, eh bien, Dieu va me montrer, ben écoute, là, il faut que tu abandonnes quelque chose. Si tu veux aller plus loin, il faut que tu laisses ça ici. Parce que plus loin, ce ne sera pas acceptable. On monte en puissance. Alors, la première, c'est aussi la zone du tourisme spirituel, malheureusement. Beaucoup de chrétiens sont en tourisme. Ils sont contents. Ah, il y avait une bonne louange ce matin, alléluia! Et le prédicateur était incroyable, et ceci, et cela, et puis vous voyez, on fait du tourisme. Je vais aller voir là-bas comment c'est, je vais aller voir. Mais on n'entre jamais plus loin. La question, c'est de savoir, ok, qu'est-ce que j'ai déposé et est-ce que je suis invité à aller plus loin? Le deuxième domaine, ça va être chercher le lieu saint. On va prendre Jean 15, verset 5. Et c'est la clé qui nous permet de comprendre que sans cet état de cœur, sans cette attitude, je ne peux pas aller plus loin. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu dois accepter aujourd'hui qu'humainement parlant, tu peux faire plein de choses. Tu peux réaliser tellement de choses dans ta vie, être fier de toi, et c'est très bien. Mais spirituellement, les choses qui ont de la valeur éternelle ne dépendent que de Christ. Sans Christ, tout ce que tu fais n'a aucune valeur éternelle. Tu dois faire des choses de ton vivant, c'est normal, mais les choses qui ont une valeur éternelle, sans toi, je ne peux rien faire. Et si tu veux rentrer dans ce lieu saint, tu es obligé de comprendre ce verset, de te dire, Seigneur, voici ma vie, je te donne ma vie sur l'autel, et je reconnais que profondément, sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire. Et là, tu rentres. Le problème, c'est que juste avant, tu étais au soleil. Lunettes de soleil, ça tapait, chaleur de la Réunion, tout va bien, on a chaud, on bronze, on mange de bons barbecues, on est avec nos amis. Mais tu te rends compte que là, tu fais un pas et tu es un peu plus seul. Il y a moins de monde. Ce n'est plus l'ambiance barbecue. Dans le lieu saint, il n'y a plus de lumière naturelle. Il n'y a plus qu'une lumière, la lumière qui vient de cette chandelle, de ces sept chandelles qui brûlent. Et puis, on va dire que c'est la petite lueur du Saint-Esprit. Et là, tes yeux ont besoin de s'adapter. Vous êtes déjà passé d'un endroit ensoleillé, vous arrivez dans la pénombre, vous êtes comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Quand tu rentres dans le lieu saint, tu abandonnes ta vue charnelle. Ah, lui, il a été béni, il a eu sa maison, moi aussi, je veux ma maison. Non, tu ne regardes plus les autres, tu ne vois plus personne, tu ne peux plus te comparer, c'est entre toi et l'esprit. Ah tiens, c'est la pénombre. Comment je fais? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est Paul qui va bien nous parler de ça dans Actes 17, verset 17. Il va nous dire qu'on entre dans ce domaine de la recherche, mais qu'on cherche comme en tâtonnant. Comme ça. Quand tu ne vois plus, tu mets tes mains devant et tu commences à tâtonner. On tâtonne. On est dans la recherche. Mais là, je ne peux pas juste trouver le nouveau YouTuber à la mode qui donne des paroles de Dieu. Non, tu es tout seul. Tu vois, le bon prédicateur là, qui m'encourageait. Tout seul, dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et là, ah, il fait froid, non, c'est pas là que je dois aller. Ah, est-ce que je ne dois pas aller là? Ah tiens, je ressens un peu de paix ici, je vais peut-être m'orienter là. Et en fait, dans le domaine de la recherche, c'est essentiel de comprendre pourquoi tu dois rechercher. C'est parce que Dieu est en train d'ouvrir tes yeux spirituels, tes sens spirituels. Il ne veut plus que tu marches par la vue, mais il veut que tu marches par la foi. Et son seul moyen de le faire, c'est de te mettre dans un environnement où tu dépends totalement de lui. Et cet environnement est désagréable, parfois pour les hommes bien charnels que nous sommes, où on aime le contrôle, on se retrouve dans des situations où, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux? Et on passe du domaine de la demande, s'il te plaît, donne-moi un nouveau travail, à Seigneur, quelle est ta volonté? On passe du domaine de la parole au domaine de la vision. Quelle est ta vision pour ma vie? J'ai besoin de comprendre quelle est la vision pour mon couple, quelle est la vision pour mon foyer, dans mon travail. Je ne suis plus en train de demander, c'est Seigneur, quelle est ta volonté? Dans le lieu saint, tu apprends à entendre la voix de Dieu et à savoir quelle est la volonté de Dieu, non seulement pour toi, mais pour les autres. Ta prière, c'est plus « donne-moi », c'est « Seigneur, je ne comprends pas comment tu peux m'utiliser pour bénir telle personne ?» C'est quel chemin je dois suivre? Et tu tâtonnes. Tu es en train de chercher, tu deviens un chercheur d'or. Plus un chercheur de bénédiction, mais chercher la perle précieuse que Dieu veut te donner pour ta vie ou pour quelqu'un d'autre. Et ça te demande un peu de temps quand même. Alors si tu te trouves dans cette situation où tu tâtonnes dans ta vie, c'est normal. On ne sait pas tout. La foi, on sait partout. On s'engage dans un chemin et on dit, Seigneur, je dépends de toi. Et on s'attend à ce qu'il nous parle, on s'attend à ce qu'il trace un chemin pour nous, mais ce n'est pas toujours clair. Ne te stresse pas, c'est normal, tu es en formation là. Et Jésus a dit, cherche parce que tu vas trouver. Alors ça m'encourage. Seigneur, je vais trouver ta volonté. Alors Chanel vous a parlé lors du temps d'Action de grâce de ce qui s'est passé. Là, on a changé de maison récemment, ça faisait 3 ans qu'on cherchait la maison. Et vous savez, il y a des réalités financières, il y a toutes sortes de réalités. Et on cherchait. Et le chemin que Dieu a tracé dans mon cœur était le suivant. Au début, je râlais un peu. Ça vous arrive de râler? Ou il n'y a que moi? J'étais dans les parvis et je râlais. Je dis, Seigneur, tu vois, je bosse et tu vois, je comprends pas là, j'aimerais qu'on soit plus à l'aise et si tu peux ouvrir une chemin. Pendant 3 ans, j'ai râlé. J'ai râlé sans le dire, mais j'ai râlé. Dans mon cœur, je râlais. Mais Seigneur, c'est pas normal quand même. Je fais pas 12 heures semaine, je bosse. Et tu vois, l'État, il me prend tout, c'est pas possible. Et... Vous voyez, dans les parvis, on râle beaucoup. Et puis, à un moment donné, ma femme m'a dit, il faut que tu arrêtes. Parce que la bénédiction de Dieu, tu peux pas, on a été bénis, tu peux pas cracher sur la bénédiction d'hier. D'accord? Honore Dieu. Sois heureux. Change ton attitude. Je dis, bon, je vais écouter ma femme, parce qu'une fois de temps en temps, elle a raison. Donc, elle est pas là, je peux me permettre. Seigneur, bénis-la. Et puis j'ai dit, Seigneur, de toute manière, c'est vrai, j'ai commencé par la foi, je vais continuer par la foi. Et des fois, vous voyez, on commence dans un domaine par la foi. Mais j'ai toujours proclamé, j'ai dit, Seigneur, tout ce que j'aurai, c'est toi qui me le donneras. Tout. Et je proclamais, je me souviens, j'avais une vingtaine d'années, j'ai dit, Seigneur, ma maison, tu me la donneras, ma femme, tu me la donneras, mes enfants, tu me les donneras, tout appartiendra. Et là, d'un coup, on monte un petit peu socialement, sans plus. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous pareils, hein? Et là, je me retrouve là et je dis, Seigneur, ok, à nouveau, je t'abandonne tout. Je vais quitter les parvis, là, et je vais rentrer dans ta volonté. Et donc, comme Chanel vous l'a dit, on s'est dit, bon, Seigneur, il faut qu'on achète un piano parce que ce serait bien pour la maison, pour les enfants, on est contents, ils sont musiciens, et elle avait vraiment à cœur d'acheter un piano. Alors moi, quand ma femme me donne une mission, je mets toute mon énergie. Je dis, ok, chérie, je cherche sur Internet quel piano pour débutants dans un budget qui nous correspond. Je pose des questions à des pianistes à gauche, à droite. Quel type de touches il faut acheter, le nombre de touches. Et là, j'ai trouvé, je suis prêt à acheter, tu vois. Et là, je dis, Alex, réfléchis à la taille du clavier. Parce que c'est compliqué, il faut savoir le positionner dans la maison. Et dans notre maison, on avait tellement tout optimisé qu'il n'y a plus de place, pour ceux qui connaissent l'ancienne maison. Et là, je sors le mètre, je regarde et je dis, il y a un problème, je ne sais pas mettre. Il n'y a pas un seul endroit où je peux mettre le piano. Et là, je regarde Chanel. Il y a quelque chose qui monte en moi. Je dis, chérie, le problème, ce n'est pas le piano, c'est la maison. Mais ce n'était plus dans une attitude de râlage. C'était vraiment dans une attitude, Seigneur, mais en fait, je peux m'attendre à toi pour cette chose-là. Et donc, hop. Et je me retrouve sur le bon coin. Touk, 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 touk. Je trouve une maison. Le prix est indécent. J'ose même pas le regarder. Je le montre à ma femme et je dis, regarde, ce serait peut-être pas mal. Là, elle me regarde, mais arrête, Alex, mais tu sais comment ça va aller, on peut pas, et machin. Je dis, chérie, regarde bien. Ah oui, ah bah d'accord. Je dis, maintenant, tu trouves la maison. Alors, elle trouve un détail sur Internet et elle me dit, je l'ai trouvé. Donc, je regarde sur Google Earth, je regarde la maison et là, en moi-même, il y a quelque chose qui démarre. Je dis, c'est pas possible. 3 jours auparavant, je passais devant cette maison, je ne l'ai jamais regardée en 10 ans que j'habite dans. Je passe dans cette rue. Et en fait, 3 jours auparavant, je déposais ma fille Esther. Je tourne ma tête vers cette maison et le Saint-Esprit me dit, cette maison est à vendre. Au moment où cette pensée tombe dans mon cœur, je la refuse. Je dis non, c'est pas pour moi. Parce que dans ma tête, moi je suis un homme du bâtiment, je considérais qu'il fallait que je retape une maison. Vous voyez, parce que c'était... J'ai déjà retapé ma maison et je me dis, je vais continuer, j'aime bien ça, c'est un plaisir, c'est super, je vais retaper une maison. Et là, ce n'est pas une maison à retaper, malheureusement, donc ça n'allait pas dans mes idées. Donc je refuse tout ça, et quand elle me montre la maison, c'est la même maison que j'ai vue 3 jours avant. Là, je me lève, je dis, chérie, monte dans la voiture. Monte dans la voiture, on roule, on va devant, et là, je regarde, je dis, regarde s'il n'y a pas un panneau à vendre. Parce que ce que je me dis, je doute encore de la pensée que j'ai reçue, et je me dis, est-ce que ce n'est pas un fruit de mon imagination, peut-être qu'en passant, j'ai vu un panneau à vendre. Aucun panneau à vendre. Et Dieu nous a bénis, on a pu l'acquérir, on est passé de miracle en miracle, je vous passe les détails. Mais tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, quand on est dans ces parvis et qu'on quitte les parvis, on rentre dans le domaine de la foi, on doit fermer nos yeux et on tâtonne comme ça. Seigneur, est-ce que vraiment c'est ta pensée? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Qu'est-ce que tu veux que je travaille en moi? Et on tâtonne à gauche, à droite, jusqu'à recevoir la volonté de Dieu, qui est parfois pas parfaite, c'est-à-dire, quand je dis pas parfaite, c'est qu'on comprend pas encore tout, mais il y a juste les prémices. Et là, on dit, et quand on sait que c'est Dieu, quand il y a cette conviction de foi, la parole de Dieu nous parle de conviction de foi, pas juste de calcul 1 plus 1 égale 2, machin, ceci, cela. On est tous très cartésiens, on a été formés à l'école de France, on est tous très carrés. Mais sortir de ce cadre-là et dire, Seigneur, je rentre dans le domaine du divin, je rentre dans le domaine du lieu saint, et Seigneur, tu vas me parler différemment. Et dans ce lieu, tu apprends à tendre l'oreille spirituelle. Ok, il y a les principes bibliques, ok, il y a ce que j'ai appris, ok, j'ai entendu telle prédication, ok, j'ai grandi avec des parents qui ont fait comme ça. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à moi, dans ma réalité, dans mon quotidien, face à mes défis, dans mon église, quand tu me prends de compassion pour quelqu'un, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Et l'attitude change complètement. On n'est plus en mode barbecue, donne-moi, protège-moi, Seigneur, donne. On est Seigneur, quelle est ta volonté pour cette situation? Comment veux-tu m'utiliser? Ça marche? Alors imagine que c'est comme quand tu es... les vieilles radios, là, tu es en train de, dans le lieu saint, tu es en train de chercher la fréquence, là. Ça grésille, et puis tu règles, t'ajustes jusqu'à entendre la pensée clairement. Ça, c'est le lieu saint. Où on t'appelle. Tu rentres dans la prière. Seigneur, tu m'as dit que je dois chercher. Pas juste demander. Pas juste te remercier en avance. Vous savez, on a appris comme ça souvent dans l'église aux enfants, leur dire, avant que vous fassiez une prière, remerciez Dieu. Donc les bons enfants chrétiens, ils remercient Dieu. Merci Seigneur pour le soleil, merci pour ceci, rendre grâce. Vous voyez, c'est assez machinal. C'est très bien, il y a le cœur de l'enfant, mais à un moment donné, il faut grandir. Et puis ensuite, maintenant je te demande, et par la foi je reçois. Et malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de chrétiens qui prient comme ça, et ça n'a jamais dépassé le plafond de verre. Donc le code secret, c'est que si tu veux aller plus loin, tu dois abandonner certaines choses. Si tu n'abandonnes rien dans les parvis, tu ne peux pas aller plus loin. Ce n'est pas possible. Plus loin, ton cœur va être devant Dieu et tu vas régler la fréquence tout doucement. C'est normal de tâtonner dans ta vie. C'est normal. Alors, on va prendre Proverbe, chapitre 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est d'agir de façon cachée. La gloire des rois, c'est de découvrir ce que Dieu a caché. Tu es appelé à devenir un roi, à devenir un prêtre, à rentrer dans le lieu saint et à découvrir ce que Dieu a caché pour ta destinée, ce que Dieu a caché pour ta vie. Et c'est à toi de le découvrir. C'est pas seulement en attendant la prophétie, la prédication, la prière du dimanche. C'est toi qui dois devenir ce grand prêtre. Ce prêtre qui sert Dieu réellement et qui trouve, qui cherche, qui se dit « Je vais chercher ta trace, Seigneur. Où est-ce que tu vas agir dans ma vie ?» Moi, il y a des temps dans ma vie, comme ça, je ne sens pas la présence de Dieu. Ah, le pasteur, il dit ça. Oui ! Vous sentez toujours la présence de Dieu, vous ? Non ! Mais tu as tes certitudes, tu as tes convictions qui te tiennent. Et à un moment donné, tu dis « Seigneur, je sens qu'il y a un tournant dans ma vie, tu vas faire quelque chose. » C'est comme une odeur, tu vois. Tu sais qu'il va se passer quelque chose, tu ne sais pas quoi. Et tu commences à renifler. Ce n'est plus le barbecue, là. Tu renifles l'odeur de la présence de Dieu. Seigneur, tu es où, là? Qu'est-ce que tu veux faire? Et en fait, ton attention devient... Tu deviens concentré sur ce que Dieu veut faire et plus sur tout ce qui se passe autour de toi. Tu es concentré. Qu'est-ce que Dieu veut faire pour moi? Tu n'es plus distrait par ce monde, distrait par tous les bruits environnants. Tu es concentré. Et Dieu est en train de faire de toi, comme je l'ai dit, un prêtre. Alors, on va prendre Hébreux 10, verset 19. Maintenant, t'es dans le lieu saint, Dieu commence à te parler, il y a des choses qui se passent en toi, il y a une direction qui s'affine, et t'es face, t'arrives au fond du lieu saint, et là, t'es face à un rideau épais, c'est la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui est là, comment je passe, comment je traverse ça? Et il nous a dit ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. C'est très clair bibliquement. Ce n'est pas parce que tu es un bon chrétien qui vient tous les dimanches au culte, qui fait toutes les réunions, qui suit tous les programmes, qui jeûne 4 semaines. Non, c'est parce que tu comptes sur le sang de Jésus, parce que tu as une pleine assurance en Jésus-Christ, en son sacrifice, en sa grâce. Et là, tu peux te présenter devant Dieu. C'est fou! Ben ça, c'est notre réalité. Alors ma question, c'est quand t'es-tu présenté devant Dieu cette semaine, avec la ferme assurance que tu étais dans la présence de Dieu, que tu allais connaître la gloire de Dieu. Quand est-ce que ça s'est passé la dernière fois? Et parfois, tu remontes à une semaine, deux semaines, un mois, six mois. Et c'est triste, parce que c'est accessible tous les jours, à chaque instant, à chaque minute. Donc ici, Jésus nous parle de cette progression, où Dieu a tout fait, a tout accordé, mais il dit, à un moment donné, demande correctement, cherche correctement et frappe correctement. Mais arrête de demander que la pommade, arrête de faire le tourisme spirituel, arrête de t'attendre toujours aux mêmes choses, c'est ton travail. Ce n'est pas le travail d'un ancien de l'Église pour toi, c'est ta vie, c'est ta responsabilité. C'est ta façon d'être devant Dieu. Alors on est là, nous, pour vous encourager. Mais fléchir le genou dans ta chambre et dire, Seigneur, je veux connaître ta gloire, je ne peux pas le faire pour toi. Personne ne peut le faire pour toi. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je n'arrive pas à te toucher aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'arrive? Il faut s'interroger. Est-ce que j'ai du mal à mettre quelque chose sur l'autel? Est-ce que je suis perturbé parce que je tâtonne, ça ne va pas assez vite? Et puis, je ne comprends pas ce que tu veux, ça m'énerve. Il y a beaucoup de chrétiens, ça m'énerve, je ne sais pas. On se ferme. Moi, j'en connais beaucoup, ça m'énerve. Ça t'énerve, tu ne verras pas la gloire de Dieu, excuse-moi, je ne peux rien faire pour toi. On va prier, mon frère, à très bientôt. Parce qu'il faut un cœur pour toucher le Saint des Saints. C'est la perfection, c'est la sainteté de Dieu. Et là, tu dois te couvrir du sang de l'agneau et humblement dire, mais voilà qui je suis, Seigneur, j'ai beau faire tous mes efforts, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi et que par ton sacrifice, je peux aller dans ce lieu très saint. Amen. Alors, on arrive à frapper par le moyen du sang, je rentre. Tu rentres dans ce lieu très saint, et là, il faut frapper. C'est l'image du SWAT. Il y en a qui connaissent le SWAT, les Américains, ou GIGN pour les Français. Alors, eux, ils ont une mission claire. Ils doivent débusquer quelqu'un, ils arrivent, la mission est claire, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils prennent le bélier, boum, ils défoncent la porte. Ils ne toquent pas poliment, « Excusez-moi, vous avez enfreint la loi, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, lever vos armes et venir gentiment, nous allons vous emprisonner. » Ils ne disent pas ça, ils savent que la personne est malveillante devant eux, ils sortent le bélier, boum, ils rentrent. Eh bien, dans cette notion de frapper que Jésus nous parle, c'est qu'il doit y avoir un choc spirituel. Et parfois, les chrétiens sont trop gentils. Seigneur, par ta grâce. Jésus dit, frappe! Alors, pourquoi frapper si Dieu sait tout? Pourquoi frapper si Dieu nous a déjà tout donné? Tu dois frapper parce qu'il y a des oppositions. Quand tu frappes à une porte fermée. C'est que Dieu a déjà veut ton bien. Mais le malin se positionne contre ce bien-là. Et toi, dans la présence de Dieu, tu te rappelles des promesses, tu te rappelles de ce que Dieu a déposé dans ton cœur, et quand il y a une opposition devant toi, quelles qu'elles soient, les circonstances, la maladie, le besoin, des phénomènes spirituels, si vous voulez, là, vous sortez le bélier, vous frappez une fois, vous frappez deux fois, vous frappez trois fois, vous ne vous arrêtez pas. Parce que si tu t'arrêtes, tu n'es pas allé au bout, tu passes à côté de ce que Dieu a déjà établi, décrété spirituellement. Il y a des lois spirituelles. Tu t'approches de la sainteté de Dieu en te couvrant du sang de Jésus. Dieu t'ouvre un chemin pour ta vie, pour ta destinée. Mais il y en a un qui va tout faire pour pas que tu l'atteignes. Il va se présenter devant toi. Et toi, tu dis, ah, Jésus, s'il te plaît. Non, Jésus dit, mais frappe maintenant! Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu arrêtes de persévérer? Et trop souvent, on arrête de persévérer. Et on râle. Oh Jésus, j'ai pas encore eu mon augmentation. Pas trouvé l'homme de ma vie. Mais frappe. C'est déjà accordé dans les lieux célestes. Ton Père est bon. Il veut te donner de bonnes choses. Selon sa volonté. Alors j'aimerais amener une nuance dans ce que je vous dis là. Parce que frapper, ce n'est pas forcer la main de Dieu. Frapper, ce n'est pas dire « Seigneur, selon ta parole, il est écrit que, et machin, et ceci, et cela, donc fais maintenant, oh !» Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas dire « Dieu, tu vas faire pour moi maintenant !» C'est tout simplement connaître les lois de Dieu spirituelles. Je suis ton enfant, je suis héritier. Et tu m'as dit, en Matthieu 10, verset 6, tu nous as appris à prier, tu m'as dit que Jésus nous a dit de prier que ton règne vienne. Ça veut dire que tu es maintenant mon roi. Ta royauté s'établit dans mon cœur. Ta royauté s'établit sur mon corps. Ta royauté s'établit dans mes pensées. Ta royauté s'établit sur mes biens. Ta royauté s'établit dans toutes les sphères de ma vie, dans mes amitiés, dans ma famille. On l'a déclaré, déclarons sur nos familles, sur toutes ces choses-là. On déclare la royauté de Dieu. Je suis ton enfant. Par ton sang, même imparfait que je suis, j'ai accès à ta faveur, à ta bénédiction. J'ai accès à ce que tu as déjà prévu pour moi. Alors Seigneur, maintenant je dis à l'ennemi, tu dégages. J'ai l'autorité de dire à toutes sortes de limitations qu'elles partent parce que je suis couvert du sang de Jésus. Tu n'es pas en train de forcer Dieu. Tu es en train de réclamer ce qui t'est dû et dire au malin, recule. Et beaucoup de chrétiens reculent dans ces domaines-là. J'ai peur, ça m'angoisse. Mais tu dois rentrer dans le combat spirituel. Là, c'est du combat. Ce n'est pas juste des théories. C'est là que tu fais tes preuves. Tu me suis ? Amen. Vous connaissez l'histoire de Bartimée en Marc 10, chapitre 47 à 53, on va le lire. C'est quelqu'un qui a frappé. Bartimée, il a compris que là, c'était son moment. Il a senti qu'il se passait quelque chose. Il dit, il faut que ça change ma situation. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, donc c'est Bartimée qui entendit que Jésus était là, il était en train de passer, il se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Qu'est-ce que ça veut dire, fils de David ? Fils de David, ça veut dire qu'il comprenait que c'était le Messie. Quand on dit fils de David, c'est parce qu'on comprend qu'il y a quelque chose. Là où certains ne comprenaient pas, venaient que par intérêt derrière Jésus. Lui, il comprend quelque chose. Il dit, « Fils de David, aie pitié de moi !» Quand il parle comme ça, il y a déjà ce profond désir que Jésus intervienne en sa faveur. Qu'est-ce qui se passe ? Première chose, je vais mettre la suite. Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Tout de suite. Il passe du domaine de la parole, il dit, aie pitié de moi, il est convaincu, il sait que c'est la volonté de Dieu, et là, qu'est-ce qu'on dit ? Tais-toi, s'il te plaît, tu n'as rien à faire là. Tu n'es pas digne de t'approcher de lui, reste à ta place, de toute manière, tu n'es pas capable, reste là. Lui, cependant, criait de plus belle, fils de David, aie pitié de moi. Verset suivant, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. On appela l'aveugle en lui disant, courage, lève-toi, il t'appelle. C'est marrant, hein, les mêmes qui lui disaient de se taire, maintenant lui disent, lève-toi, il t'appelle, lève-toi. Lui, là, Jésus, il t'appelle. À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Maître, lui répondit l'aveugle, « fais que je puisse voir. »« Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Comme je vous disais à l'intercession, il n'a pas commencé à prier de cette manière-là. Je leur ai donné un exemple mercredi. Imaginez qu'on s'adresse à notre père et que moi, je m'adresse à mon père. Mon père, il est là. Et je sais qu'il peut me donner quelque chose. Je vais dire, mon cher papa Antoine, toi qui es venu de Pologne avec ta petite valise, tu as servi le Seigneur toute ta vie, mais tu as construit une belle maison. J'aimerais mon héritage. Peux-tu me le donner, s'il te plaît ? Et vous voyez, et on est là, parfois on parle à Dieu comme ça, « Toi, l'Éternel des armées !» Puis on part dans toutes sortes de prières longues et compliquées. Et là, on a entendu, « Fils de David, aie pitié de moi. » Le besoin est clair. La parole est claire. Le cœur est là, la foi est là, la guérison est là. On se complique tellement la vie. Et pourtant, avec Jésus, c'est tellement simple. Jésus, je te reconnais. Par ton sang, j'ai accès à tellement de choses. Je suis héritier de ton royaume. Je ne veux pas m'en priver. Alors, je veux demander correctement. On a ce verset qui nous dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. On demande mal. Et après, on se plaint. Et on ne décolle pas. Alors que Dieu dit, mais écoutez, moi, vous avez accès à ma présence à tout moment. Venez, je vous invite. Et en plus de ça, vous avez l'autorité sur tout ce qui va vous bloquer dans ce chemin-là. Tout ce qui va se bloquer, vous... mais il faut frapper, les gars. C'est votre responsabilité de frapper. Je vous ai donné l'autorité. Amen. Je m'arrête là, on va prier. Alors j'aimerais que tu te poses cette question, c'est où en es-tu clairement? Est-ce que tu es dans le parvis? Accroché à ton autosuffisance, tu sais tout faire tout seul. Et puis une fois de temps en temps, tu as besoin de Dieu, donc une fois de temps en temps, tu viens vers lui. Quand c'est critique, tu gères ta vie, tu gères tout ce qui est autour de toi, et puis tu dis que, bon Seigneur, fais ta volonté, mais finalement c'est toi qui gères. Eh bien, peut-être que c'est le moment de monter sur l'autel et te dire, Seigneur, de toute manière, j'ai rien à perdre. Voici qui je suis, voici mes pensées, voici mes limitations, voici mes faiblesses, mais j'aimerais aller plus loin avec toi. Et il faut que je passe par cet autel. J'accepte d'abandonner ceci, d'abandonner cela, de m'approcher de toi sincèrement, de déposer tous mes raisonnements compliqués. Jésus, c'est simple avec toi. Peut-être que tu es encore dans le lieu saint à tâtonner. Et c'est OK. Hein? Tu cherches encore la fréquence de Dieu. Je t'encourage, continue à chercher la fréquence de Dieu. Continue de dire, Seigneur, je veux clarifier les choses avec toi. Parle-moi. Tu peux me parler. Esprit de Dieu, éclaire mon chemin là dans cette pénombre. Là où mes yeux ne comprennent pas, mon intelligence est limitée, là où ça me dépasse. Éclaire mon sentier. Donne-moi cette pensée, cette petite voix qui fait que je vais être déterminé comme jamais, que je serai prêt à tout pour toi. Peut-être que tu es déjà prêt à saisir le bélier, que tu ne l'as pas encore saisi, mais qu'il faut que tu le saisisses. Saisis-le, mais sois comme Élie. Élie, il avait la promesse, mais il ne se passait rien. Il a dit à son serviteur, va voir, une fois, deux fois, trois fois, il va devant la mer et la septième fois, il y a un petit nuage. Peut-être que tu dois persévérer jusqu'à ce que tu vas voir le petit nuage. Et ça, c'est ce que Dieu est en train de faire, est en train de commencer dans ta vie, dans ton cœur. Il change les circonstances et il faut que tu sois attentif à ça. Il faut que tu sois capable de le voir, sinon tu vas négliger, tu vas mettre de côté, finalement tu vas passer à côté de ce que Dieu veut faire. Alors Seigneur, je vais te prier pour nous ce matin. On veut être ces personnes, Seigneur, qui progressons dans ta présence, Seigneur. On ne veut pas juste suivre des concepts, des principes, mais on veut suivre ta parole, et ta parole est simple. Elle est tellement simple, Jésus, que quiconque pouvait entendre tes mots, Seigneur, et avoir accès au royaume de Dieu. Et parfois, on la complique tellement, Seigneur. Seigneur, tu demandes sincèrement, Seigneur, de te parler, de trouver cette relation. On te demande des choses, Seigneur, et c'est la première étape. Tu nous demandes de passer par l'autel aussi, d'être capable, Seigneur, d'abandonner certaines choses. Tu nous demandes, Seigneur, de prendre le temps de chercher. Parce que tout ne coule pas toujours facilement. C'est comme un papa, c'est un jeu de piste, parce qu'on apprend tellement de choses. On apprend à entendre ta voix, on affûte, Seigneur Jésus, nos yeux, nos oreilles spirituelles, Seigneur, pour entendre ta voix, éclairer au moyen de ta parole, Seigneur. Et Seigneur, fais de nous des conquérants, Seigneur, face aux difficultés, face aux intempéries, face aux blocages parfois, face aux liens, Seigneur, qui sont autour de nous. Seigneur, on veut prier efficacement et on veut mettre des coups de bélier. Un, deux, trois, on ne s'arrête pas au troisième, au quatrième, on continue, Seigneur. Quand les muscles commencent à lâcher, on continue. Quand c'est difficile, Seigneur, qu'on tétanise, Seigneur, tu nous dis, vas-y, continue. Et Seigneur, le diable, Seigneur, recule tout simplement. Par ton sang, Seigneur. Alors, merci pour ta présence, Jésus. Amen. Alors, les vivants.